Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment en sommes-nous arrivés là? Montée de l'intolérance à l'école. Un texte de Fanny Arcan, paru le 27 février 2026 dans la presse. La montée de la haine dans les écoles peut surprendre. Mais elle s'inscrit dans un contexte numérique et politique où l'intolérance est de plus en plus décomplexée. Comment intervenir auprès des jeunes? Deux expertes ont donné leur avis à la presse. D'où sort cette augmentation des gestes et discours intolérants chez les jeunes? C'est multifactoriel, affirme d'emblée Marie-Ève Carignan, directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, chaire UNESCO PREV. On observe notamment une augmentation des contenus misogynes et masculinistes en ligne, et certaines données indiquent que la détresse chez les jeunes garçons est en hausse, explique la chercheuse. La pandémie a aussi accéléré la polarisation et a normalisé des discours extrêmes, selon Diana Miconi, professeure adjointe au département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal. Qui plus est, les modèles de masculinité dite « toxique » abondent dans l'espace public. Certaines des personnes les plus puissantes de la planète sont des personnes misogynes, violentes et ont des propos suprémacistes blancs sans jamais être punis. Ça, les jeunes le voient. Alors, quelle crédibilité on a après quand on leur dit que la haine, c'est tolérance zéro, ajoute la chercheuse. Plusieurs professeurs consultés par la presse ont souligné que les exemples d'intolérance qu'ils observent sont souvent ancrés dans des croyances religieuses. Ce lien est-il avéré? Non, c'est plus hétérogène que ça, tranche Diana Miconi. Certains rapports montrent que la religion peut être un facteur, mais il n'existe pas de profil type. Il faut vraiment être prudent avec ça, souligne Marie-Ève Carignan. Or, il existe bel et bien des facteurs de vulnérabilité au courant de pensée intolérant. Les jeunes qui vivent de la discrimination, qui se sentent isolés et qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux sont plus susceptibles d'adopter des idéologies haineuses, selon les chercheuses. Tous les jeunes ont un fort besoin d'appartenir, d'être bons dans quelque chose, d'être valorisés par leurs pères et les adultes. S'ils n'y arrivent pas à l'école, dans leur famille ou en société, ils vont chercher ça ailleurs, affirme Diana Miconi. Et cet ailleurs, c'est très souvent les réseaux sociaux où les contenus masculinistes pullulent. Comment intervenir face à un jeune qui tient un discours haineux? Qu'on le veuille ou non, la solution devra passer par le dialogue, selon Diana Miconi. Elle rappelle que l'adolescence est une période où il est normal de remettre en question les limites et de tester différentes opinions. Alors il faut créer des espaces, en famille ou à l'école, pour parler d'une manière non moralisatrice avec ces jeunes-là, pour comprendre ce qu'ils pensent, comment ils se sentent, pourquoi ils ont plongé dans ces idées-là, explique la chercheuse. L'idée n'est pas de banaliser les propos haineux, mais bien d'encourager les adolescents à complexifier leurs pensées et à user de leur esprit critique, affirme Diana Miconi. Dans le milieu scolaire, il n'existe pas de consensus quant à la bonne façon d'agir devant les discours haineux. Mais pour un enseignant, c'est bon d'établir les bases de fonctionnement de sa classe dès la rentrée, affirme-t-elle. Et si l'évocation d'un enjeu en classe cause des remous, la chercheuse suggère au professeur de mettre la discussion sur pause. En règle générale, on traite des sujets d'une façon neutre, basée sur les faits et sur les chiffres, quand on est en groupe. Et si les émotions montent, c'est mieux d'en traiter de façon individuelle. Le travail de recherche de Diana Micconi a aussi démontré que l'expression artistique et le théâtre peuvent aider les jeunes à évacuer les émotions, colère, sentiment d'injustice, qu'ils dissimulent parfois sous des discours intolérants. C'était « Comment en sommes-nous arrivés là, montée de l'intolérance à l'école », un texte de Fanny Arcan, paru le 27 février 2026, dans la presse.
On ne peut inverser le processus de vieillissement, mais voici 5 gestes qui aident à vivre plus longtemps. Un texte de Hassan Vali, paru le 7 janvier 2026 dans La Conversation. À cette période de l'année, beaucoup de gens prennent la résolution de s'occuper davantage de leur santé. Il n'est donc pas surprenant que les produits censés prolonger la vie, améliorer la santé et rajeunir l'apparence connaissent un grand succès. On estime que la longévité est déterminée à 25 % par les gènes et que le reste dépend des habitudes quotidiennes. Il n'existe pas de solution miracle ni de raccourci pour vivre plus longtemps et en meilleure santé, mais la science énonce clairement des principes clés. Voici 5 choses que vous pouvez faire pour prolonger votre espérance de vie et améliorer votre santé. 1. Mangez principalement des aliments d'origine végétale. L'alimentation a une incidence considérable sur la santé. Il est largement prouvé qu'un régime riche en aliments d'origine végétale est bénéfique pour la santé et permet de vivre plus longtemps. En consommant davantage d'aliments d'origine végétale et moins de viande, de produits transformés, de sucre et de sel, on diminue le risque de contracter certaines maladies qui réduisent l'espérance de vie, comme les troubles cardiaques et le cancer. Les aliments d'origine végétale sont riches en nutriments, en composés phytochimiques, en antioxydants et en fibres. Ils possèdent également des propriétés anti-inflammatoires. Toutes ces caractéristiques protègent nos cellules des dommages liés au vieillissement et contribuent ainsi à prévenir les maladies. Il n'existe pas de régime alimentaire qui convienne à tout le monde, mais l'un des plus étudiés et des plus sains est le régime méditerranéen. Inspiré des habitudes alimentaires des populations vivant dans les pays bordant la mer Méditerranée, il accorde une place importante aux légumes, aux fruits, aux céréales complètes, aux légumineuses, aux noix et aux graines, aux poissons et aux fruits de mer, ainsi qu'à l'huile d'olive. 2. Viser un poids santé. Une autre mesure importante pour être en bonne santé consiste à maintenir un poids santé, car l'obésité augmente le risque de souffrir de divers problèmes de santé qui réduisent l'espérance de vie. L'obésité met à rude épreuve tous les systèmes du corps et provoque de nombreux effets physiologiques, comme des inflammations et des troubles hormonaux. Ces problèmes augmentent le risque de développer diverses maladies, telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle, le diabète et plusieurs types de cancers. Outre ses effets physiques, l'obésité est également associée à une mauvaise santé mentale. Elle peut notamment causer de la dépression, une faible estime de soi et du stress. L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés dans les pays développés est le fait de vivre dans un environnement qui favorise l'obésité. La publicité omniprésente et la facilité d'accès à des aliments riches en calories que notre corps est programmé pour désirer font en sorte qu'il est facile de consommer trop de calories. 3. Faire de l'exercice. Chacun sait que l'exercice physique est bénéfique pour la santé. La résolution la plus courante est de faire davantage d'exercice et d'améliorer sa condition physique. Une activité physique régulière permet de prévenir les maladies chroniques, de réduire le stress et de renforcer la santé mentale. Si l'exercice physique aide à contrôler son poids et à réduire son taux de graisse corporelle, ses effets sont plus larges et comprennent une utilisation accrue du glucose, sucre dans le sang, une diminution de la pression artérielle, une réduction de l'inflammation, ainsi qu'une amélioration de la circulation sanguine et de la fonction cardiaque. Il est facile de se laisser emporter par l'engouement pour différentes stratégies de mise en forme, mais les études montrent que tout ce qui permet d'intégrer une activité physique à son quotidien est bénéfique pour la santé. Plutôt que de courir des marathons ou de passer des heures au gym, il est préférable de bouger au quotidien de toutes les manières possibles et de pratiquer des activités qui nous plaisent. 4. Ne pas fumer. Pour améliorer sa santé et vivre plus longtemps, on doit éviter de fumer ou de vapoter. La cigarette affecte presque tous les organes du corps, réduit l'espérance de vie et diminue la qualité de vie. Il n'existe pas de niveau de tabagisme sans danger. Chaque cigarette augmente le risque de développer des cancers, des maladies cardiaques ou du diabète. Peu importe le nombre d'années passées à fumer et l'âge d'une personne, arrêter de fumer apporte des bienfaits pour la santé presque instantanément et permet d'inverser bon nombre des effets néfastes de la cigarette. Si vous envisagez de passer à la cigarette électronique comme option à long terme, réfléchissez-y à deux fois. Les effets à long terme de la cigarette électronique sur la santé ne sont pas entièrement connus et elle présente ses propres risques pour la santé. 5. Privilégier les relations sociales. Lorsqu'il est question de vivre plus longtemps et en meilleure santé, on a tendance à se concentrer sur le corps. Mais l'une des découvertes les plus importantes de la dernière décennie est la compréhension de l'influence de la santé spirituelle et psychologique. Les personnes seules et socialement isolées présentent un risque de mortalité prématurée beaucoup plus élevé et sont plus susceptibles de souffrir de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de démence, ainsi que d'anxiété et de dépression. Bien que nous n'en saisissons pas encore tous les mécanismes, ce phénomène résulterait de facteurs tant comportementaux que biologiques. Si les personnes ayant un bon réseau social sont plus enclines à adopter des comportements sains, la solitude semble également avoir un effet physiologique direct sur l'organisme. Pour être en meilleure santé et vivre plus longtemps, nous devrions développer et entretenir des relations sociales. C'était « On ne peut inverser le processus de vieillissement », mais voici 5 gestes qui aident à vivre plus longtemps. Un texte de Hassan Vali, paru le 7 janvier 2026 dans La Conversation.
La Cour suprême américaine va arbitrer la participation d'athlètes transgenres aux compétitions féminines. Un texte de l'AFP publié le 13 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles. La Cour suprême américaine, majoritairement conservatrice, débat mardi d'une question devenue explosive. Le droit des filles ou femmes transgenres à participer à des compétitions sportives féminines, scolaires et universitaires. Donald Trump a fait des droits des personnes transgenres un des axes de sa campagne de 2024, promettant de mettre fin au délire transgenre. Dès le 20 janvier, jour de son investiture, le président républicain a signé un décret selon lequel son administration ne reconnaîtrait désormais l'existence que de deux sexes, masculin et féminin, définis à la naissance. Il a également signé en février un décret autorisant les agences fédérales à couper les subventions aux écoles qui permettent aux sportifs transgenres de concourir dans des championnats féminins. En cause mardi devant les 9 juges de la Cour suprême, les lois adoptées par les États conservateurs de l'Idaho, Nord-Ouest et de la Virginie-Occidentale, Est, qui, comme plus de la moitié des États américains, interdisent aux femmes transgenres de participer aux compétitions féminines. En Idaho, pionnier de ce type de législation aux États-Unis, une étudiante transgenre de l'Université de l'État de Boise, Lindsay Haycock, a contesté son exclusion d'épreuves sportives. Une cour d'appel fédérale lui a donné raison, considérant que la loi violait une disposition du 14e amendement de la Constitution américaine sur l'égale protection des citoyens. En Virginie-Occidentale, il s'agit d'une mineure transgenre dont une autre cour d'appel fédérale a conclu qu'elle subissait une discrimination fondée sur le sexe, prohibée par la loi américaine.
bon sens. Soutenus par l'administration Trump qui qualifie ces lois de politique éminemment raisonnables, les deux États affirment vouloir simplement faire respecter l'équité et la sécurité sportive. En moyenne, les hommes sont plus rapides, plus forts, plus grands, plus musclés et ont plus d'explosivité que les femmes, fait valoir dans ses arguments écrits l'IDAO assimilant les femmes transgenres à des hommes et invoquant le bon sens. Les femmes et les filles ont perdu des places dans les équipes de sport, cédé des places sur les podiums de championnat et subi des blessures. En affrontant des femmes transgenres, déplorent également les représentants de la Virginie occidentale. Mais les sportifs transgenres concernés exhortent la Cour suprême à déclarer ces lois illégales et discriminatoires. La discrimination gouvernementale contre les personnes transgenres ne fera que s'intensifier si cette Cour statue que les lois discriminant les Américains transgenres sont présumées constitutionnelles, préviennent ainsi les avocats de Lindsay Hecox. La décision des 9 juges est attendue d'ici le terme de la session annuelle de la Cour suprême fin juin. En juin, la Cour a permis au Tennessee Sud d'interdire aux mineurs transgenres l'accès au traitement de transition, considérant que la loi adoptée en la matière par cet État ne présentait pas de caractère discriminatoire. C'était « La Cour suprême américaine va arbitrer la participation d'athlètes transgenres aux compétitions féminines », un texte de l'AFP publié le 13 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles.
Controverse autour d'un extrait promotionnel à Radio-Canada, un texte d'Alexandre Vigneault paru le 12 février 2026 dans la presse. Le retrait d'un extrait d'une chronique aux propos féministes des réseaux sociaux de Radio-Canada suscite l'indignation de son autrice, l'écrivaine et chroniqueuse Élisabeth Lemay, qui s'est sentie utilisée pour des clics. Elle craint que cette concession du diffuseur public encourage d'autres campagnes d'intimidation contre le contenu féministe. La controverse a pour point de départ une chronique de l'autrice féministe Élisabeth Lemay à l'émission de radio De l'huile sur le feu, animée par Rebecca McConnell, le vendredi 6 février 2026. Elle était l'invitée du segment « C'est chaud », où une personne vient faire part d'une opinion polarisante. Prenant à contre-pied un discours présent dans l'espace public, elle a développé l'idée que la crise de la solitude masculine est une bonne nouvelle, affirmant notamment que c'est le signe que les femmes s'émancipent et qu'elles sont à la recherche de partenaires qui les considèrent comme des égales. Dans l'extrait de cette chronique publiée sur les réseaux sociaux, l'autrice comparait les hommes et les femmes dans leurs moments de solitude, disant que celle-ci n'importune personne. Que font les hommes quand ils se sentent seuls? Demande-t-elle ensuite. Ils se radicalisent en ligne, ils deviennent fascistes, ils insultent les femmes sur les réseaux sociaux, ils fabriquent des deepfakes, ils utilisent l'intelligence artificielle de toutes les manières imaginables pour nous agresser. C'est cet extrait que Radio-Canada a retiré de ses réseaux sociaux lundi. Nous regrettons la publication de cet extrait sur nos réseaux sociaux. Une chronique de ce type nécessite une écoute dans son intégralité pour en saisir toutes les nuances, a écrit le diffuseur public en ligne, admettant par la bande ne pas pouvoir garantir en ligne un espace éditorial rigoureux. Radio-Canada a réitéré ses propos à la presse et a démenti l'idée selon laquelle elle avait cédé aux pressions d'une droite masculiniste en retirant l'extrait, précisant que c'est l'équipe de marketing qui avait sélectionné celui-ci. Une méconnaissance de l'écosystème. L'autrice Élisabeth Lemay n'est pas du même avis. Au cours de son entretien avec la presse, elle a répété plusieurs fois qu'elle assumait chaque ligne de sa chronique diffusée le 6 février 2026, dont le contenu était connu de l'équipe de l'émission depuis près de 2 semaines. Elle s'attendait à une vague de haine en ligne. « C'est tout ce qu'il y a de plus ordinaire pour les gens qui font du contenu féministe », dit-elle. Et elle ne reproche pas non plus à Radio-Canada d'avoir choisi un extrait qui allait provoquer pour publiciser l'émission sur ses réseaux sociaux. Elle déplore toutefois que le diffuseur public n'ait pas anticipé que des propos féministes comme les siens allaient susciter des réactions violentes qui ne sont pas surprenantes de son point de vue. Ils ont retiré l'extrait sans discernement, sans réfléchir aux conséquences sur ma personne et ma sécurité, dit Élisabeth Lemay, qui a constaté une recrudescence de messages haineux à son endroit dans la foulée. Ce geste démontre, à son avis, une méconnaissance qu'elle juge inquiétante de l'écosystème numérique dans lequel on vit. Elle estime que cette décision de la société d'État donne raison aux intimidateurs. Radio-Canada vient de leur donner le feu vert, à savoir que la menace fonctionne. Un enjeu systémique. Nelly Brière, consultante en communication numérique et réseaux sociaux, estime que cette controverse est caractéristique de l'instrumentalisation des réseaux sociaux par certains groupes et du fonctionnement des algorithmes, qui fait en sorte que du contenu féministe abordant des questions comme l'avortement ou les personnes trans se trouve principalement vu et en circulation auprès d'hommes qui sont fâchés, en désaccord avec ça, dit-elle. Cette structure a plusieurs effets pervers, estime Nelly Brière, qui craint elle aussi que Radio-Canada ou d'autres médias deviennent plus frileux dans les sujets qu'ils traitent et les idées qu'ils abordent. Certains sujets dont on doit débattre en société, selon elle, seraient ainsi invisibilisés. Rebecca McConnell, l'animatrice de l'huile sur le feu, s'est quant à elle dite bouleversée devant la déferlante de haine à laquelle doit faire face Elisabeth Lemay. Elle précise que si elle l'a invitée à son émission, c'est parce qu'elle croit qu'il faut entendre sa voix, pas la taire. Elle a présenté ses excuses à son invitée, disant croire que des gestes auraient pu être faits pour que cela ne dérape pas. C'était Controverse autour d'un extrait promotionnel à Radio-Canada, un texte d'Alexandre Vigneault, paru le 12 février 2026 dans la presse.
Des proches aidants craignent d'être stigmatisés au travail. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir. Une personne proche aidante sur trois évite de parler de son rôle au travail par crainte de jugement ou de perte de possibilités, révèle un nouveau sondage Léger. Ça nous montre à quel point il y a encore un enjeu d'acceptabilité sociale, déplore Corinne Vachon-Croteau, directrice générale du Réseau pour un Québec famille. Ce qu'on entend beaucoup des personnes proches aidantes, c'est qu'elles ont peur d'être stigmatisées par leurs collègues de travail, ajoute Lauriane Estienne, directrice générale de Proche Aidance Québec. Elles ont peur qu'on leur en tienne rigueur, de vivre des conséquences relativement à leur absence. Autre élément qui ressort de ce sondage publié mardi, c'est que les parents se sentent plus à l'aise que les personnes proches aidantes dans l'utilisation des mesures de conciliation, relève Mme Vachon-Croteau. Ainsi, 68 % des parents disent se sentir à l'aise d'utiliser les mesures de conciliation famille-travail contre 58 % pour les proches aidants. Ça reflète une réalité en organisation où les mesures sont davantage pensées pour les parents. C'est pourquoi il faut continuer de parler de proche aidance, de démystifier cette réalité, pour que les personnes proches aidantes se sentent davantage incluses. C'est d'autant plus important que la moitié des proches aidants occupent un emploi, rappelle Mme Estienne. On est dans un contexte de vieillissement de la population, donc il va y avoir une augmentation du nombre de personnes proches aidantes et, par conséquent, une augmentation du nombre de personnes proches aidantes en emploi. Le sondage montre qu'une majorité de proches aidants jugent essentiel que leur employeur offre des mesures concrètes de soutien. Il révèle également que 86 % des proches aidants ayant changé d'emploi dans les deux dernières années l'ont fait pour accéder à de meilleures mesures de conciliation famille-travail. Plus de la moitié des proches aidants disent trouver stressant de devoir négocier des accommodements professionnels. Ce stress est particulièrement élevé chez les répondants qui travaillent dans de très grandes organisations, 69 % ou pour une entreprise qui n'est pas favorable à la conciliation, 71 % ou qui offre des mesures insuffisantes en ce sens, 67 %. Peut-on lire dans le sondage? Les employeurs peuvent aider à faire diminuer ce stress en mettant en place une politique de conciliation famille-travail qui comporte des balises claires en lien avec l'approche aidance, explique Corinne Vachon-Croteau, qui accompagne les entreprises dans la mise sur pied de telles mesures via l'initiative Concilie-vie, chapeautée par le Réseau pour un Québec famille. Reconnaître l'approche aidance. Si la sensibilisation auprès des employeurs est importante, il ne faut pas non plus négliger celle qui se fait auprès du grand public, rappelle Lauriane Estienne de Proche Aidance Québec. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent pas comme des personnes proches aidantes. Et ça, c'est aussi important à prendre en considération. Si la personne elle-même ne se reconnaît pas comme proche aidante, va-t-elle faire appel à un congé famille ou demander l'adaptation de son horaire? Elle ne se sentira pas légitime de le faire. Mais comment un proche aidant pourrait-il ne pas se reconnaître dans ce rôle? Culturellement, on a tendance à trouver ça normal et naturel de prendre soin d'un proche. Donc, on ne se pose pas cette question-là, explique-t-elle. La proche aidance a un impact sur la sécurité financière des personnes et le concept de conciliation proche aidance-travail est essentiel pour réduire le plus possible l'impact de cet appauvrissement-là, ajoute-t-elle. Le sondage a été mené par Léger pour le compte de Concilie-vie en mai 2025 auprès de plus de 3 000 travailleurs québécois qui sont parents ou proches aidants. C'était « Des proches aidants craignent d'être stigmatisés au travail ». Un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir.